Il avait la stature d'un président.
Il avait une grosse voix. D'abord, il était grand, gros, et il avait cette voix énorme. Et quand il se mettait en colère, il était impressionnant, même si vous n'étiez pas l'objet de sa colère. Je crois me souvenir que c'était les officiers de sécurité qui suivaient la voiture en moto qui me disaient que quelquefois, quand ils gueulaient dans la voiture au téléphone, ils l'entendaient depuis leur moto à l'extérieur. Donc, mais c'était cette voix aussi qui était l'instrument de sa séduction, parce qu'il faut revoir les séances qui présidaient l'Assemblée nationale. Enfin voilà, oui, il avait une très très belle voix, ce qui est un gros atout en politique et un gros atout en matière pédagogique. C'est quelqu'un qu'on écoutait assez spontanément. Il accrochait l'intérêt, non seulement par ce qu'il disait, mais par la tonalité.
Prénom ?
Philippe. Séguin.
Sa date de naissance ?
Tunis, le 21 avril 1943, dans le fracas des bombardements. Les Alliés s'apprêtent à entrer dans la ville.
Ses parents ?
Denise a 21 ans, Robert 22. Aspirant volontaire au 4e régiment de tirailleurs tunisiens, il trouvera la mort dès l'année suivante, en Franche-Comté. Mon père mort a beaucoup compté, c'était le vœu de ma mère.
Ses études ?
Le lycée Carnot, Tunis, Sciences Po, Aix, l'ENA. Sorti 7e, il choisit la Cour des comptes.
Des élections ?
La première aux législatives, 1978, à Épinal, dont il deviendra maire. Un quart de siècle de présence active dans les Vosges. Il appartient au parti gaulliste officiel, mais lui donne l'impression d'être un gaulliste réel.
Il occupera de hautes fonctions politiques.
En 1986-1988, ministre des Affaires sociales, enfin autant dire du chômage. En 1993-1997, président de l'Assemblée nationale. Et à partir de 2004, premier président de la Cour des comptes, couvert d'hermine. Mais il est aussi le ministre du Verbe. On se souvient de son combat contre le traité de Maastricht en 1992.
Des livres ?
Ben resteront ses mémoires. En 2003, il avait songé à les intituler « Devoir » au pluriel « d'orgueil ».
Et sa mort ?
Le 7 janvier 2010... Ses obsèques télévisées en direct aux Invalides renvoient comme un écho lointain et assourdi de la mort du général de Gaulle.
France Inter. Intelligence Service. Jean Lebrun.
Sachez, monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Et pour commencer, pouvez-vous nous donner des éléments qui expliquent l'ouverture de ce dossier ?
Ben évidemment, dans sa famille politique, c'est Jacques Chirac, avec ses amis, qui a su se réserver les premiers rôles. Demeure la stature inaccomplie de Philippe Séguin, et puis ses principaux engagements. Élu d'une région que la mondialisation avait fait basculer dans la crise, il n'a cessé de réfléchir aux moyens dont la France disposait pour ne pas décrocher. Il n'était nullement hostile à l'organisation de l'Europe, mais au moment de la ratification du traité de Maastricht, il y a 30 ans, il a fait valoir qu'il y avait là un choix politique, que ce n'était pas une décision technique, que le peuple devait décider du destin de la souveraineté nationale. La souveraineté nationale, c'était pour lui tout à fait autre chose que l'identité nationale, qui lui répugnait parce que c'était une notion défensive. Et s'il y avait quelque chose à quoi il était complètement étranger, lui, le natif de la Méditerranée, c'était la xénophobie. Sans doute embellissait-il la France pour ne l'avoir connue enfant que de loin, dans une Tunisie que son père avait quittée un jour pour aller la libérer. Il y avait d'ailleurs trouvé la mort, non loin de Belfort. C'est son fils, Philippe, qui plus tard avait reçu les médailles qu'il avait gagnées.
Moi, je me souviens comme si c'était hier matin. C'était sur la place qu'on appelait alors de la Résidence, à Tunis, et qui s'appelle aujourd'hui la place de l'Indépendance. J'étais le seul enfant présent, et j'étais le premier des civils à être décoré après les militaires. Je me souviens d'un colonel avec un sabre qui m'a frappé. À l'époque, ça se pratiquait de cette façon, les deux épaules. Et qui m'a remis tour à tour les deux décorations. Je me souviens du repas de famille, après, je me souviens de la photo dans le journal. Le lendemain, j'étais...
Et vous voulez plus quitter les médailles ?
Et je ne voulais pas rendre les médailles, parce que j'avais l'impression qu'elles se... qu'elle se transmettait, enfin, en quelque sorte, de père en fils. Mais on m'a expliqué qu'il fallait que je le fasse.
Et pendant toute cette période, quand vous êtes vraiment petit, enfin jeune, vous êtes accablé par le poids de cet héritage ou vous êtes fier?
Je sais pas si je suis, de toute façon, vous savez, je suis dans une famille monoparentale avant la lettre, c'est-à-dire que je vivais en tête à tête avec ma mère. Elle travaillait, j'allais moi-même à l'école, on se voyait avant et après. Je dois dire que c'était un tête-à-tête exclusif. Et il y avait un troisième personnage, à l'évidence.
Qui est présent tout le temps au-dessus, qui surplombe.
Qui était présent tout le temps. Il était la référence constante. Mmh. Il avait évidemment toutes les qualités, et pour cause. Et il l'avait démontré par sa fin. Et moi, j'avais une mission, c'est que je devais en être digne. Mm. Je ne pouvais pas être n'importe qui, n'importe comment, parce qu'il était là. Alors plus tard, le discours c'est précisé, c'est sophistiqué. Je devais accomplir ce qu'il n'avait pas accompli lui-même. Je devais en quelque sorte assumer une double destinée. Bon, alors est-ce que ça m'a accablé en tout
non,
cas
mais quand
ça,
on a 7 ans,
ça m'a beaucoup pris. Oui.
La mère de Philippe était assez démunie, mais il n'était pas question de le montrer. Nous faisons avec ce que nous avons, disait Denise. Nous ne sommes pas des mendiants. Comment dirait le général de Gaulle ? C'est lorsqu'on est faible qu'on doit être orgueilleux, devoir d'orgueil.
Importante dans la vie de Philippe Séguin, il y a donc la figure du père. Mais n'y a-t-il pas aussi, et peut-être au-dessus encore, la figure du général de Gaulle, monsieur Lebrun ?
Le général de Gaulle, pour les Européens d'Afrique du Nord, c'est souvent une figure de cauchemar. Mais pour le jeune Philippe Séguin, c'est celui qui va reconstruire les institutions, et c'est celui qui, quoi qu'il lui en a coûté, a eu raison de déposer le fardeau de la colonisation. Notre premier interlocuteur, ce sera un ancien collaborateur de Philippe Séguin, qui a été aussi son biographe, Arnaud Tessier.
Alors, il a vu surtout le destin de ses grands-parents, qui se sont installés péniblement en France, et qui en fait ont sombré dans la pauvreté, ont été peu considérés. Il parlait souvent du sort des rapatriés. Alors lui, c'était les rapatriés de Tunisie. Mais enfin, il y a eu aussi des sortes de drames personnels et humains dans cette affaire. Et il était très sévère, effectivement, sur la façon dont ils avaient été accueillis, sur la façon dont ils avaient été traités, ce qui ne l'empêchait pas, par ailleurs, de considérer la décolonisation comme une nécessité. Et je me souviens des dernières conversations qu'il a eues avec des journalistes et aussi de conversations que j'ai pu avoir avec lui, notamment sur les affaires de repentance, à propos de l'Algérie. Même si lui, c'était la Tunisie, il s'intéressait évidemment à toute cette affaire de la guerre d'Algérie, qu'il avait en partie amené vers le gaullisme. Il y a deux choses qui l'ont amené vers le gaullisme, c'est les institutions de la Ve République et c'est la façon dont de Gaulle a traité la décolonisation. Et je me souviens, il avait un point de vue très équilibré, il disait cette notion de repentance n'a aucun sens. Ils ont tous souffert. On ne peut pas distribuer les bons points de cette manière. Mais en même temps, il disait De Gaulle a fait la seule chose qui était possible de faire. Et il citait cette formule de De Gaulle qui disait « ils souffriront », qui l'avait beaucoup frappé. Et voilà. Donc, oui, il avait un point de vue très équilibré, mais sans indulgence sur la façon dont, effectivement, il avait l'exemple de sa famille. Surtout, il avait le souvenir de sa vie en Tunisie, notamment du côté de son grand-père, ses grands-parents paternels, il avait le souvenir d'une sorte de petit Éden, quand même, même si il s'est rendu compte que la réalité sociale n'était pas aussi rose. L'enfance, quand il était allé au lycée Carnot, il y a quand même des choses qu'il percevait. Mais c'était quand même une sorte de paradis perdu pour lui. Oui.
À l'arrivée en France, la barre des études est placée de plus en plus haut pour Philippe Séguin. L'école normale, d'abord. Il a aimé le métier d'instituteur qu'il a exercé un peu. On pourrait aussi bien dire qu'il l'a en réalité pratiqué tout le temps. Puis, ça a été Sciences Po, à Aix, stagiaire au quotidien Le Provençal. Il a aimé le journalisme. On pourrait aussi bien dire qu'il a écrit tout le temps. Et enfin, l'ENA, et contrairement à ce que vous attendez peut-être, il a aimé l'École nationale d'administration, dans la mesure où elle donnait une formation de généraliste plus que de technocrate, disait-il. Il a aimé jusqu'au nom choisi par sa promotion, Robespierre, l'incorruptible. Après l'ENA, c'est la Cour des comptes. Le deuxième interlocuteur, d'ailleurs, a fait lui aussi la Cour des comptes. Il a lui aussi été stagiaire de l'ENA auprès de Philippe Séguin. Il s'appelle Nicolas Bavraise.
En fait, il grandit dans l'atmosphère de la reconstruction. Il est étudiant et il commence à travailler dans le moment, le cœur des Trente Glorieuses, le début de la Ve République triomphante, avec cette décennie 60 qui reste effectivement extraordinaire, puisque les gens ont oublié, mais la France a une croissance, il n'y a que le Japon qui va plus vite, mais la France a une croissance supérieure aux États-Unis, à l'Allemagne, évidemment, au Royaume-Uni. C'est une situation de plein emploi, d'intégration très rapide, plus rapide que prévu dans le marché commun. Et puis le troisième moment, c'est le moment où ce modèle va commencer à dysfonctionner. Et ça, c'est vrai que c'est à partir de la fin des années 70, c'est-à-dire que la France n'a pas réussi en tout cas à s'adapter pleinement au choc pétrolier. Et Philippe Séguin, lui, donc, il est député à partir de 1978, donc sa vie politique, elle correspond exactement, en fait, à la montée de la mondialisation, parce que la mondialisation, si on doit lui donner une année de départ, c'est 79, parce qu'en 79, on a à la fois Deng et les quatre modernisations en Chine, on a l'invasion de l'Afghanistan, c'est le début de la fin de l'Union soviétique, on a aussi Jean-Paul II, c'est le début qui contribue aussi, et puis on a la révolution iranienne, c'est le retour de la religion au premier plan de l'histoire des hommes. Et donc, sa vie publique, elle correspond exactement à ça. Et aux difficultés de la France, qui en fait n'est jamais parvenue à s'adapter à cette nouvelle donne, ce qui explique que le pays n'a depuis cessé de décrocher.
Et en France, les difficultés des Vosges, où il se retrouve élu parce que le parti gaulliste l'y a envoyé, il aurait préféré certainement le Var. Enfin, de Gaulle était allé à Épinal, il y avait fait un discours fameux, « Il faut un État qui soit un État pour accompagner le relèvement du pays ». Et c'était en 1946, il est vrai. Et en 1978-79, l'économie des Vosges menace de nouveau ruine. Le système textile qu'incarnaient les usines Boussac tombe à terre. Élu député de justesse, Séguin n'est pas au bout de ses peines.
Si Philippe Séguin n'était pas arrivé à Épinal en 78, en tout cas, cette ville ne ressemblerait pas à ce qu'elle est aujourd'hui. Et elle aurait peut-être des allures de ville fantôme. Il faut voir qu'il arrive à un moment qui est quand même un moment terrible, puisque il arrive exactement au moment où, enfin, c'est au-delà de... Au-delà de les Vosges, il y a la Lorraine, mais c'était toute une région qui vivait de la sidérurgie et du textile. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que le choc, il n'est pas seulement économique, parce que à cause du modèle qui avait été développé à l'époque, très souvent, dans ces zones rurales où il y avait des usines, il y avait non seulement les emplois, il y avait non seulement la taxe professionnelle, mais l'usine et l'entreprise géraient aussi, avaient construit, géraient, entretenaient l'église, le terrain de foot, les équipements sportifs, les équipements culturels. Donc on avait un double effondrement à cause de ce modèle intégré qui avait été à un moment donné extrêmement florissant. Mais dans certaines de ces usines textiles, il faut voir que quand on les a fermées, vous aviez certaines des machines qui dataient de 1890. Ça donne une idée quand même du décalage qui s'était creusé.
Si après les congés payés, l'usine ne redémarre pas, est-ce que vous allez l'occuper ?
Il semble bien que la société mère nous condamne à cela.
Il était 7h30 ce matin quand ouvriers et syndicalistes procédèrent à l'ouverture illégale des portes de l'usine. Pas de réaction de la préfecture, pas de réaction de la direction. Le contexte est trop explosif, qui aurait pris le risque de faire intervenir les forces de l'ordre? Ils ont visité les locaux anciens par groupe de 12 avec accompagnateurs, et pourtant le juge était formel hier dans son ordonnance. Défense est faite à toute personne non autorisée par la direction de pénétrer dans l'entreprise.
Et donc, un moment terrible où d'un côté l'activité économique et les emplois disparaissaient et de l'autre côté avec cela disparaissait aussi toute une série des structures publiques. Il y avait des choses qui avaient été construites par ce patronat paternaliste qui étaient des choses extraordinaires. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'industrie textile était une industrie notamment qui créait beaucoup d'emplois pour les femmes. Et donc, il a fallu, Philippe Séguin s'est trouvé confronté à tout ça. C'est pour ça que, d'emblée, il s'est spécialisé sur les questions du travail et du chômage. Et
comment il parlait aux ouvriers pour leur expliquer les tenants et les aboutissants de la situation qu'ils connaissaient?
Eh bien, il leur parlait en vérité. Je peux donner un souvenir qui était un souvenir... il y avait un... Comme Séguin adorait le foot, en plein hiver, à Xertigny, qui est un petit village des Vosges, il y avait un tour de la Coupe de France et l'équipe d'Épinal jouait contre celle de Xertigny. Et est arrivé dans un froid polaire en voiture et l'usine fermait et Philippe Séguin est arrivé, la voiture couverte des crachats des gens qui étaient ici. Et donc ensuite, il est descendu, il leur a dit qu'on allait regarder le match et qu'ensuite il resterait avec eux pour discuter.
Séguin était enclin à dire aux ouvriers la vérité. 1. La reconversion, c'est la seule solution. 2. On soutiendra qui ne peut l'entreprendre de telle sorte que le chômage ne s'enquiste pas. 3. Il faut reconstituer un tissu industriel dans le département et ça passe par un effort d'équipement public. Et il va se servir de la mairie d'Épinal, qu'il a conquise à son tour, comme d'un levier, l'embellissant, y créant un premier établissement d'enseignement supérieur, y installant une sculpture de Bernard Venet, un parcours de canoë, un cinéma municipal, un golf municipal.
Une discipline qui se démocratise, le golf qui évolue, disons, de la même façon que le tennis, considéré il y a quelques années encore comme un sport cher et réservé à une certaine élite. Cette démocratisation du golf s'est concrétisée à Épinal avec la création d'un golf municipal, et c'est le premier de l'Est de la France.
Et qui connaît déjà une très forte fréquentation.
Tu avais déjà entendu parler du golf auparavant?
Non. J'ai fait du foot, mais j'ai arrêté.
J'ai arrêté.
Parce que je fais ça maintenant.
Ah bon, tu préfères le golf au foot?
Oui.
Quel rapport peut-il exister, sinon qu'il s'agit de la même activité, entre un golf privé de la région parisienne où on doit payer 3 ou 4 millions de centimes pour pouvoir jouer pendant l'année, et un golf comme celui d'Épinal où avec 950 francs pour une année, on a un droit d'accès permanent?
Ah, que d'a-t-on moqué le golf municipal de Philippe Séguin, ainsi qu'un certain nombre des installations sportives qu'il a multipliées dans le chef-lieu des Vosges. Il pensait que son attractivité tenait à ses nouveaux équipements. Il parcourait la ville le week-end, s'extrayant de sa voiture, extrayant la masse de son corps, de sa voiture. Arnaud Tessier.
En fait, quand les gens l'abordaient dans la rue, je sentais, on voyait, eux ne le percevaient peut-être pas toujours, mais il était inquiet, un peu angoissé. Il se disait, oh, on va me demander quelque chose, est-ce que je suis préparé là-dessus, est-ce que j'ai quelque chose à répondre, etc. Mais il était d'une disponibilité totale, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de petits sujets. Il disait, le maire, le maire, tout le concerne. Les crottes de chiens sur les trottoirs, si une intoxication alimentaire au lycée, qui dépend de la région, l'habitant d'Épinal, il se moque que ce soit la région qui soit compétente. Il n'y a qu'une personne qui est l'interlocuteur du citoyen, c'est le maire, le préfet dans une certaine mesure, et le maire. Et donc, il s'occupait de tout, il n'y avait pas de petits sujets, c'est un petit peu comme l'histoire des discours. Il n'y avait pas de petits sujets, il s'intéressait à tout, il pouvait être, pardonnez-moi l'expression, terriblement emmerdant sur des sujets qui paraissaient du plus grand détail. Et je crois que ça faisait sa force. Je ne sais pas si les spinaliens l'aimaient au sens où on aime une figure, des certaines figures politiques très chaleureuses, très, très en empathie, etc. Mais je pense que les habitants des Vosges, les spinaliens, l'admiraient et le respectaient. Et je trouve que c'est une grande leçon, parce que finalement, ça compte plus que d'être aimé, d'être respecté.
Encore un peu, il aurait fait la programmation de son cinéma municipal, y mettant en avant, évidemment, les grands classiques du cinéma américain qu'il aimait, John Ford.
I want some black-eyed peas, I want some mustard greens, I want some corn pone on the side. I want my chicken fried with a golden eye. Oh, oh, sad and dome. When I was kid, had Lockett, and inside was picture Davy Crockett. I know a gal named Ann that lives in Texarkana, loves a boy in Arkansas. But when they take a ride, it's on the Texas side. Oh, oh, San Antone. I want some black-eyed peas, I want some mustard greens, I want some corn pone on the side. I want my chicken fried with a golden eye. Oh, oh, San Antone. When I was kid, had Lockett, and inside was picture Davy Crockett. I know a gal named Ann that lives in Texarkana, loves a boy in Arkansas. But when they take a ride, it's on the Texas side. Oh,
oh. Intelligence Service.
Oh, oh. San Antone.
France Inter.
Monsieur Lebrun, en 1992, la question de la ratification du traité de Maastricht ne va-t-elle pas faire de Philippe Séguin un grand ministre du Verbe ?
Ah, la ratification de Maastricht, il aura tendance à dire Maastricht.
François Mitterrand invente l'idée qu'on va faire Maastricht, qu'on va faire la monnaie unique, avec l'idée, chez lui, très forte, qui est de ligoter l'Allemagne. C'est en fait la véritable idée à l'origine de la monnaie unique. Et Séguin comprend très vite que, en fait, que tout ça ne tient pas. Pourquoi ? D'abord parce que c'est pas en ligotant les pays qu'on va régler des problèmes, et surtout le fait qu'en réalité, c'est plutôt la France qui va se ligoter que l'Allemagne, parce que le modèle de régulation implicite derrière Maastricht, qu'on a découvert depuis, mais ce qui était quand même su dès le début, c'est que c'est un modèle allemand. Et donc, l'économie française avait vécu avec ses qualités et ses défauts en s'ajustant grâce à l'inflation et à la dévaluation. Et ça, on y renonçait, et on y renonçait sans faire aucun des changements de structure qui auraient été nécessaires pour s'adapter à cette nouvelle donne. C'est pour ça que Philippe Séguin voit bien poindre ça, et si on prend les grandes fonctions de la politique économique, vous n'utilisez pas tous les jours la politique budgétaire, vous n'utilisez pas tous les jours la politique industrielle. Il y a une chose que vous utilisez tous les jours, que vous soyez pauvre, riche, que vous soyez sur quelques parties du territoire, c'est la monnaie. Et la monnaie, c'est la plus puissante, la plus instantanée de toutes les politiques publiques. Et donc, avant de renoncer à cette compétence, il faut quand même avoir bien réfléchi. Et en l'occurrence, les questions que Philippe Séguin a posées, c'était exactement celles-là. La France s'est dépossédée de la plus puissante des fonctions de la politique économique et sans avoir du tout réfléchi aux conséquences que ça allait avoir sur l'économie, sur la société et sur la démocratie.
Arnaud Tessier.
Je crois que c'est parce qu'il a compris. Alors, c'était pas tellement l'Europe en tant que telle. Il n'était pas anti-européen, d'ailleurs. Il a fait tous les efforts possibles imaginables après pour essayer de convaincre qu'il n'était pas anti-européen, mais il a mis l'étiquette jusqu'à la fin. Il l'a encore. Mais il a compris qu'avec Maastricht, premièrement, il y avait une méconnaissance du principe de souveraineté nationale, à la fois dans le caractère irréversible que le traité de Maastricht entraînait pour un certain nombre de choses fondamentales, et aussi par la façon dont on s'apprêtait à ratifier le traité sans consulter personne. Il y avait un double mépris pour lui du principe de souveraineté nationale, où il voyait vraiment la pierre angulaire, d'ailleurs, assez logiquement, de la démocratie. Donc ça, je crois que ça a été quelque chose de vital. Et puis, comme c'était un homme très attaché à l'histoire, à la République et à sa capacité d'intégration, l'idée que le principe d'idée nation, l'idée même de nation, paraisse jetée aux orties de manière assez brutal, au prix d'ailleurs d'un texte extrêmement technique où personne ne pouvait rien comprendre aisément, Donc le combat pour Maastricht est vraiment beaucoup identifié à Philippe Séguin.
Alors le combat de Philippe Séguin va s'organiser comme une fusée à plusieurs étages. D'abord, un discours à l'Assemblée nationale en profitant habilement de la possibilité d'introduire une exception de non-constitutionnalité. Le texte de Maastricht ne pourrait pas être discuté, dit-il.
L'exception d'inconstitutionnalité, vous pouvez la déposer tout seul, et surtout, et c'est là où ce discours a été, c'est que normalement à l'Assemblée, tout est minuté, mais pas pour l'exception d'inconstitutionnalité. Donc il a pu parler pendant 2h30, dans une ambiance d'ailleurs dramatique, parce que c'était le soir où les tribunes de Furiani se sont effondrées. Mais donc, ce qui veut dire quand même que sur quelqu'un que personne n'attendait, il commence à 10h30, il finit à 1h du matin, l'hémicycle qui était à peu près vide se remplit, et il finit sous des applaudissements, y compris de certains de ses adversaires politiques. Donc il a vraiment changé la donne. C'est la dernière fois qu'une part importante de l'histoire de France s'est écrite à l'Assemblée nationale.
Mais qu'on y prenne garde, c'est lorsque le sentiment national est bafoué que la voie s'ouvre aux dérives nationalistes et à tous les extrémismes. Comme il faut bien nous apaiser, voilà qu'on nous promet de respecter les identités nationales, en cherchant à nous convaincre que ces identités sont trop fortes pour que le creuset fédéraliste les menace de disparition. Des concessions nous seront faites concernant, sait-on jamais, quelques-unes de nos coutumes, parce que le folklore ne dérange personne. Jamais un mouvement folklorique n'est devenu révolutionnaire. On nous abandonnera notre langue, quitte à nous laisser le soin de la bâtardir. Il est d'ailleurs tout à fait significatif d'avoir choisi le mot « identité » pour désigner ce qu'on consent à nous laisser. Cette assurance qu'on se croit obligé de nous donner est déjà l'indice d'un risque majeur. On parle de l'identité lorsque l'âme est déjà en péril. On parle de l'identité lorsque l'espérance a déjà fait place à l'angoisse. On parle de l'identité lorsque les repères sont déjà perdus. La quête identitaire n'est pas une affirmation de soi. C'est le réflexe défensif de ceux qui sentent qu'ils ont déjà trop cédé. En ne nous laissant que l'identité, on ne nous concède donc pas grand-chose, en attendant de ne plus rien nous concéder du tout.
Le discours de Séguin, aussitôt imprimé, fait comprendre au président de la République, à François Mitterrand, qu'il lui faut prendre son risque. Il ne présentera pas le texte de modification de la Constitution par adoption du traité de Maastricht devant le Congrès, le Parlement, à Versailles, mais devant le peuple par référendum. Et Séguin va partir en campagne, une campagne d'autant plus improbable, dit Nicolas Bavrez, qui est associé Charles Pasqua.
C'est une campagne qui n'a ressemblé à aucune autre, parce que d'abord, elle était complètement inattendue, improbable. Ensuite, parce que c'est vrai que les personnalités de Philippe Séguin et ensuite de Charles Pasqua étaient évidemment hors normes. Donc, c'est une des rares campagnes où on pouvait annoncer une conférence de presse des deux avec 1h30 de préavis et où il y avait une salle comble de journalistes du monde entier qui pouvaient venir. C'est une campagne aussi qui a profondément... qui a amené les Français, pour la première fois, à s'interroger vraiment sur ce qu'était l'Europe et sur ce qu'ils souhaitaient.
Alors l'alliance avec Pasqua, ça a dû quand même lui poser des questions. Et puis l'alliance avec d'autres personnalités ouvertement anti-européennes, il ne l'assumait pas si facilement.
Non, mais il n'y avait pas d'alliance. Il faut être clair. Philippe Séguin, d'ailleurs, n'était pas anti-européen. Philippe Séguin a fait la campagne pour le non qu'il souhaitait faire. À aucun moment, il y a eu d'alliance, ni avec l'extrême droite, ni même avec Philippe Devilliers. Mais ça n'empêchait pas que, ensuite, un référendum sur une question aussi fondamentale, il faut accepter le fait que vous pouvez vous retrouver avec des gens avec lesquels, par ailleurs, vous ne partagez pas grand-chose. voire avec lesquels vous êtes en opposition complète. Et si, s'il y a des gens avec lesquels Séguin était en opposition complète, c'est certainement pas la gauche, mais l'extrême droite, assurément.
L'opinion évolue à tel point que peu avant le scrutin, les résultats deviennent incertains. Et un grand débat est organisé le 3 septembre 1992, dont le point d'orgue sera une discussion entre François Mitterrand et Philippe Séguin, orchestré à la Sorbonne par Guillaume Durand.
Théâtre qui s'appelle la salle des architectes. Vous savez que cette émission va se dérouler en quatre grandes parties. D'abord, vous allez avoir la possibilité, ou plutôt nous allons avoir la possibilité de bavarder ensemble. Ensuite, vous pourrez dialoguer assez longuement avec des Français qui ont été sélectionnés par la SOFRES. Helmut Kohl participera à cette émission en donnant un témoignage d'Allemagne fédérale. Et enfin, vous dialoguerez avec Philippe Séguin, qui, lui, vous le savez, est l'un des grands leaders du non-France. Je vous propose que nous démarrions en rentrant dans cette petite salle.
Merci, et bonsoir aussi.
Ben merci, monsieur le président.
Vous, ici.
Vous vous asseyez ici.
Alors, une fois déployé tout ce programme, le face-à-face attendu, Séguin-Mitterrand va enfin intervenir après une pause musicale, publicitaire, médicale.
45 800 francs, la Corsa City Injection boîte 5 vitesses. Et en plus, elle est déjà catalysée. Eh ben, c'est du propre. 45 800 francs, une Opel Corsa. Bon, ben, moi, j'y vais tout de suite, hein. Allez, je vous laisse.
Voilà, donc le moment attendu est arrivé pour le dialogue qui va opposer Philippe Séguin à François Mitterrand, le président de la République, donc, et le ministre, l'ancien ministre des Affaires sociales et maire d'Épinal, vont nous rejoindre. Monsieur le président de la République, monsieur le ministre, je vous remercie de cet échange qui va être suivi par tous les Français avec beaucoup d'attention.
Bien, je suis venu effectivement pour cela. Je crois, monsieur le président de la République, pour lancer ce débat, qu'il faut que nous tentions de comprendre ce qui se passe en ce moment dans le pays. Vous avez eu le mérite de décider un référendum. Je crois que ce référendum était souhaitable, car c'est au moins un point sur lequel je suis en total accord avec vous. Ce traité est une très grande affaire, un très grand problème. Pour autant, il semblerait qu'un certain nombre de Français, un nombre non négligeable de Français, soient tentés par le non. Et il faut, je crois, comprendre leur motivation. J'ai l'impression que cette tentation, elle est alliée à cette crise politique, cette crise morale que nous traversons depuis un certain nombre d'années. Une crise qu'on décrit comme étant un divorce entre la chose publique et les Français. Il y a, il nous affecte tous, un rejet de la politique. Et les Français sont en train d'utiliser ce référendum, comme ils ont utilisé d'autres élections, pour faire part de leur insatisfaction.
Ce débat, en fait, il a été, c'est ce que raconte Philippe Séguin dans ses souvenirs, c'est-à-dire que, en fait, il y en a une double vision très très différente, c'est-à-dire que Philippe Séguin voulait de manière pédagogique et raisonnable poser ses arguments de principe, et c'est vrai que François Mitterrand lui a opposé une virtuosité dialectique incroyable.
Vous ne pouvez pas argumenter en ayant l'air de laisser penser que la France perd tout d'un coup les moyens de sa souveraineté et qu'elle va se soumettre dans sa vie quotidienne, démocratique, dans sa façon de vivre, dans sa façon de penser, à une domination étrangère. Ce serait alors vraiment comme si on avait perdu une guerre. Et croyez-vous que je puisse l'accepter plus que vous? Mais je crois que la communauté correspond à une œuvre collective indispensable. Les temps se modifient peu à peu. À l'intérieur de l'Europe de l'Ouest, On a parlé tout à l'heure des guerres qui nous ont séparés. C'est un projet enthousiasmant que de penser que non seulement ces peuples ont signé une sorte de pacte de paix perpétuelle en s'associant depuis 1957 et en renouvelant cette affirmation à diverses reprises depuis cette époque, mais c'est encore plus enthousiasmant que de penser qu'ils seront capables en plus de se doter d'une politique ou d'une diplomatie commune, de traiter en commun les problèmes qui touchent à la paix du monde, aux rapports de puissance, aux échanges internationaux. Je ne sais pas, moi, vous y voyez peut-être un frein ou une inquiétude. Vous n'avez pas tort de vous poser des questions, il faut toujours s'en poser. Mais c'est une œuvre admirable pour notre génération. C'est une œuvre formidable pour vous, pour moi, et plus encore pour nos enfants, que d'imaginer ce que sera demain l'Europe dans laquelle ils vivront. Parce qu'à ce moment-là, ils vivront dans une communauté tout en ayant gardé leur patrie, préservé leur patrie, celle qu'ils aiment avant toute chose. Ils en auront conquis une deuxième, l'Europe, notre Europe.
Et effectivement, selon la plupart des... Moi, je fais partie de cela, vu de l'extérieur, François Mitterrand avait pris l'avantage. Quand, pour l'avoir vécu de l'intérieur, c'était très différent, parce qu'effectivement, il y a eu le fait qu'il y avait beaucoup de retard. Bon, ce qui était inattendu, c'était Helmut Kohl, mais surtout le fait que François Mitterrand a reçu des soins et qu'à ce moment-là, on a prévenu Séguin que le président était très malade et qu'il était opéré le lendemain. Donc, ce qui est vrai, c'est que le débat était très différent quand on avait cette info et quand on le regardait ensuite uniquement de l'extérieur.
On l'a accusé d'avoir retenu ses coups.
Et ça, je ne crois pas, parce que je crois que... On peut le critiquer pour dire qu'il n'a pas pris le bon angle. Mais je pense profondément que Philippe Séguin a dit exactement ce qu'il souhaitait dire.
Au lendemain du débat, comme pour ajouter à sa dramatisation, le président Mitterrand fait annoncer son hospitalisation pour cause de récidive de son cancer. Et l'émotion ainsi provoquée va renforcer son succès au référendum, bien moindre néanmoins que celui qu'il espérait au départ. Séguin n'a pas échoué. L'année suivante, la gauche perd sèchement les législatives, ne revient à l'Assemblée qu'au format minimal. Et c'est Philippe Séguin qui devient président au Palais Bourbon. Se souvient-il du discours d'Épinal du général de Gaulle en République ? Nul pouvoir ne doit en écraser un autre. En tout cas, il va veiller au respect des droits d'une opposition réduite à couilla.
Rituel républicain. Chaque mercredi à 15h, le président de l'Assemblée nationale, Philippe Séguin, résonne tambour, sonne trompette, entre en séance.
Vous êtes, mesdames et messieurs, cette Assemblée nationale. C'est votre honneur, ce sera votre honneur à jamais d'avoir été collectivement les dépositaires de la souveraineté que notre peuple s'est reconnu, a conquise, a défendue. À l'ensemble de l'Assemblée, je veux apporter la garantie de mon impartialité et de ma volonté de favoriser l'expression de toutes ces nuances, de toutes ces diversités, donc de toutes ces contributions potentielles. Nul ne sera écrasé par personne, j'en donne l'assurance formelle. L'un des critères essentiels d'un régime démocratique réside, nous le savons, dans le respect des droits de l'opposition. L'opposition aura donc les moyens de jouer tout son rôle. On a beaucoup dit et écrit sur la composition de cette Assemblée, qui ne compte, il est vrai, guère de précédent dans notre histoire. Mais les règles du jeu étant ce qu'elles sont, ces règles étant connues de tous, ces règles ayant été loyalement appliquées, il faut dire haut et fort que cette Assemblée est bien telle que l'ont voulu les Français. À vous, à nous, de faire en sorte que sa composition, qui est présentée trop souvent comme une hypothèque, soit finalement une chance pour notre pays.
Il aimait profondément l'Assemblée nationale. Pour cet homme qui était quand même un homme de la constitution gaulienne, un homme de l'exécutif fort et qui était lui-même un homme autoritaire. Il aimait l'Assemblée, il aimait le débat politique, il aimait les contacts avec les parlementaires. Et quand il est devenu président de l'Assemblée nationale, c'était pas simplement un poste qu'il a pris comme ça, parce qu'il lui fallait une position dans la République après les élections de 93, parce qu'il n'avait pas voulu entrer au gouvernement Balladur. C'est parce qu'il aimait vraiment l'Assemblée. Donc c'est quelque chose dont je peux témoigner, cette sorte de contact physique, presque charnel, qu'il avait avec l'Assemblée nationale.
Monsieur Lebrun, dorénavant Philippe Séguin a acquis une stature présidentielle. Mais est-il capable de s'émanciper de Jacques Chirac, son aîné qui détient la machinerie du parti gaulliste?
Non, parce que ça supposerait de trahir Jacques Chirac. Alors en 1994-1995, il suffisait déjà d'Édouard Balladur. Jacques Chirac avait refusé de conduire le gouvernement, le dernier gouvernement de François Mitterrand finissant. Il avait laissé la place à Édouard Balladur, qui dorénavant prend la lumière et devient le favori de l'élection présidentielle. Philippe Séguin choisit de se porter au secours de Jacques Chirac en mettant au point un discours sur l'indispensable réduction de la fracture sociale, où Chirac, face à un Balladur qui incarne un libéralisme satisfait de lui-même, va trouver sa planche de salut.
C'est vrai que la fracture sociale qui s'élargit aujourd'hui, depuis déjà un certain temps, et qui se traduit par un chômage, par de l'exclusion, de plus en plus important, c'est de nature à inquiéter, et ça peut être de nature à exaspérer. En tous les cas, c'est de nature à affaiblir notre pays, et ce n'est pas socialement acceptable.
Séguin est assurément l'inventeur de ce discours-là, mais si vous voulez, on ne peut pas dire que Jacques Chirac est un opportuniste. Jacques Chirac n'y a jamais cru, pas plus qu'au reste. Jacques Chirac est complètement décalé, il s'accroche à la bouée qui passe. Cette bouée, c'est Philippe Séguin, pour lequel il a la plus grande méfiance, mais dont il sait par ailleurs que il est sans doute le seul qui peut le sauver. Ce qui a été le cas. Et très vite, Séguin n'a aucune illusion. Il sait très bien qu'une fois que Juppé est remonté à bord, que mais là encore, Séguin était sans illusion sur Jacques Chirac, mais ce qui l'a motivé, c'est deux choses, comme toujours, le fond, c'est-à-dire l'idée qu'il y avait un vrai risque d'éclatement de la société française, et quand on voit ce qui s'est passé depuis, on ne peut pas dire qu'il s'était trompé. Et puis, c'est vrai que il y a une vraie incompatibilité de manière d'être, de valeur avec Édouard Balladur. Pour lui, c'est effectivement cette espèce de mépris de caste qui est quelque chose que même physiquement, il ne supportait pas.
Cher Jacques Chirac, demain, si comme je l'espère, tu gagnes cette élection, ne te laisse pas voler ton message, ne te laisse pas voler ta victoire, n'oublie pas le pacte républicain. Pense à ce peuple, qui est de droite tout autant qu'il est de gauche, qui a su s'identifier à un champion rejeté par les états-majors et les cénacles, parce qu'il prenait la peine de le convaincre que la fracture sociale n'était pas fatale, que le courage paye pour peu qu'il s'allie à la raison et à la continuité d'une démarche.
On sait que Jacques Chirac ne fera pas comme l'a demandé Philippe Séguin, qu'il choisira Alain Juppé comme Premier ministre. Nicolas Bavrèze ajouterait, un choc fiscal s'ensuit, un choc social, un grand mouvement de grève au bout du chemin. Il y a la dissolution. Jacques Chirac perd les élections législatives et du coup, Philippe Séguin perd son fauteuil de président de l'Assemblée nationale. Philippe Séguin vivra ensuite deux expériences crépusculaires. La première, c'est la présidence du RPR. En 1998, quatre présidents de région de l'autre parti de droite, l'UDF, acceptent d'être maintenus à leur poste par le vote des conseillers Front National. Séguin est absolument hermétique à l'extrême droite et indifférent à ce qu'on appelle aujourd'hui la réunion des droites. Ce qui lui importe, c'est un rassemblement plus large, le métro à 6h du soir, disait André Malraux. Séguin a beaucoup de mal à se faire entendre de certains de ses compagnons. « Est-ce que vous allez sacrifier votre honneur pour des voitures de fonction » demande-t-il. 2001, il accepte d'échanger une candidature au municipal d'Épinal, où il est si heureux, contre une autre à Paris. Mais le sortant, Jean Tiberi, empêché pourtant par de multiples affaires, refuse de se retirer sans que Chirac intervienne suffisamment. Il n'est pas question pour Séguin d'accommodement entre ses valeurs et la compromission, le choix est vite fait. Il est sévèrement battu, il va se défaire de ses mandats, revenir à son corps d'origine, la Cour des comptes, dont Nicolas Sarkozy, qu'il estime, le fera premier président. C'est la dernière institution qu'il transformera. Chaque fois qu'il prend la responsabilité d'un lieu, il veille à le rendre meilleur pour ses successeurs. Il meurt en poste, prématurément, vieilli, usé, en 2010.
Voilà les enfants donc de Philippe Séguin, Patrick, Catherine, Anne-Laure et Pierre qui vont se succéder pour cette prière universelle.
Pour ceux qui, issus du milieu social, économique et politique, ont partagé les combats auxquels il a consacré sa vie, pour tous ceux qui placent l'intérêt général au-dessus de leur intérêt particulier, prions le Seigneur.
Obsèques télévisées, en direct.
Oui, c'est-à-dire que il y a eu un moment d'unité, d'émotion extrêmement fort et où Séguin a été remis à sa juste place, qui est celle d'un des hommes d'État importants de la Ve République et dont le drame a été, contrairement à Clémenceau, De Gaulle ou Churchill, il ne faut jamais oublier que Clémenceau, De Gaulle ou Churchill, quand ils rencontrent leur moment, pour la plupart des gens, ils sont finis. Séguin n'a jamais rencontré vraiment ce moment-là. Et ce qu'on disait, les moments où il aurait pu peut-être franchir le Rubicon, en fait, lui respectait trop Chirac, la Ve République ou même son parti pour aller jusqu'au bout de la démarche. C'est là qu'on a vu que c'était l'homme de la nation et que finalement il réconciliait ce double héritage de Mendès et de Gaulle. C'est que les hommages sont venus autant de la gauche que de la droite. Et je pense à juste titre parce que beaucoup des valeurs pour lesquelles Séguin s'est battu sont des valeurs de gauche.
Merci à Nicolas Bavrez et à Arnaud Tessier, dont la biographie « Philippe Séguin, le remords de la droite » a été publiée aux éditions Perrin. La technique Yves Lehors, les agents d'intelligence service Frédéric Martin, Franck Olivard, à la technique et la maison de la radio et de la musique Antoine Teboul, et la réalisation Audrey Ripouille. Tout de suite après le journal, Tanguy Pastureau et Alex Vizorek. Pastèque.